Les mille et une nuits, tome 8, chapitre 14. Histoire du roi Ilansha et d'Abou Temam. Abou Temam joignait à de grands biens beaucoup de sagesse, de prudence, de grandeur d'âme et de générosité. Mais le pays qu'il habitait était gouverné par un monarque injuste et avare, qui n'avait aucun respect pour les lois, disposait à son gré de la fortune et de la vie de ses sujets. Craignant que le roi ne s'emparât de ses richesses, Abou Temam n'osait en faire usage. Cette contrainte lui déplut. Il résolut de chercher une autre patrie et de se retirer dans un pays où il pût jouir librement de ses biens et mener un genre de vie conforme à son humeur noble et généreuse. Ilansha passait pour un roi sage et équitable. Abou Temam choisit la capitale de ses états pour le lieu de sa demeure. Il y fit bâtir un palais. Il transporta secrètement ses richesses et vint y fixer son séjour. Il se meubla avec magnificence, acheta un grand nombre de chevaux et d'esclaves et fit une dépense proportionnée à sa fortune. Le roi Ilansha entendit bientôt parler d'Abou Temam. Il le fit venir et lui dit « Je sais que vous vous êtes fixé depuis peu dans ma capitale. Je suis bien aise de pouvoir vous compter au nombre de mes sujets. Regardez ce pays comme le vôtre. Vous y trouverez la protection et la considération que vous méritez. Je désire même faire connaissance avec vous, et je veux que vous veniez me voir assidûment. » « Prince, répondit Abou Temam, ma personne et mes biens sont à votre service. Mais, accoutumé à la retraite et à la vie privée, je pourrais paraître étranger à la cour, déplaire à plusieurs de ceux qui vous entourent, me faire des ennemis, et exciter contre moi la jalousie. » Le roi ne voulut pas recevoir les excuses d'Abou Temam, et l'assura qu'auprès de sa personne, il n'avait rien à craindre des méchants et des envieux. Abou Temam, forcé d'obéir au roi, venait tous les jours lui faire sa cour et lui offrait de temps en temps des présents. Le roi ne tarda pas à reconnaître son mérite et sa prudence. Il le prit en affection et lui confia le soin de sa maison et des affaires de son royaume. Dès lors, tout se trouva dans la dépendance d'Abou Temam. Le roi ne prenait conseil que de lui. Rien ne se faisait que par lui. Il ordonnait et défendait, liait et déliait avec une puissance absolue. Le roi avait eu auparavant trois vizirs qui ne s'éloignaient pas de sa personne ni jour ni nuit. Écartés entièrement du gouvernement depuis l'élévation d'Abou Temam, ils avaient conçu contre lui la jalousie la plus violente et disaient souvent entre eux « Le roi nous a ôté sa confiance pour la donner à cet étranger. Il le comble d'honneur, n'a l'estime que pour lui et dédaigne nos services. Nous ne devons pas souffrir plus longtemps un tel affront, et il faut absolument inventer quelque ruse pour perdre ce nouveau favori ou l'éloigner d'auprès du roi. » Un jour qu'il délibérait sur cela, un d'eux dit aux autres « Vous savez que le roi du Turkestan a une fille qui passe pour la plus belle personne du monde et qui fait mourir tous ceux qui sont envoyés pour la demander en mariage. Parlons au roi de cette princesse, vantons-lui sa beauté et tâchons de lui inspirer le désir de l'épouser. Il voudra savoir de nous qui il doit envoyer auprès du roi du Turkestan pour lui demander la main de sa fille. Nous lui conseillerons de charger de cette demande Abou Temam. Le roi du Turkestan le fera mourir comme les autres et nous reprendrons auprès d'Ilansha le rang et la faveur dont nous jouissions autrefois. » Les vizirs approuvèrent cette idée et convinrent de se trouver ensemble le lendemain auprès du roi. Ils firent tomber adroitement la conversation sur les femmes, parlèrent de la fille du roi du Turkestan et firent à l'envi l'éloge de sa beauté. Ilansha, enchanté du portrait qu'ils lui tracèrent de cette princesse, leur dit qu'il désirait l'épouser et leur demanda qui il pourrait envoyer à la cour du roi son père pour faire réussir cette affaire. Les vizirs, se tournant du côté d'Abou Temam qui était présent, conseillèrent au roi de le charger de cette commission, ajoutant que sa prudence et son habileté en garantissaient d'avance le succès. Le roi trouva qu'ils avaient raison, et s'adressant à Abou Temam, « Va, lui dit-il, à la cour du roi du Turkestan, et fais-lui en mon nom la demande de la princesse sa fille. Prends une suite nombreuse et emporte avec toi des présents pour le roi, la princesse et toute la cour. » Ilansha fit aussitôt revêtir Abou Temam d'une robe du plus grand prix et le congédia. Abou Temam, empressé d'obéir à son maître, fit promptement les préparatifs de son voyage et se mit en chemin. Le roi du Turkestan, informé de l'arrivée d'un ambassadeur de la part du roi Ilansha, envoya au-devant de lui plusieurs de ses principaux officiers et fit préparer un superbe palais pour lui et pour sa suite. Il le reçut avec la plus grande distinction, le fit manger à sa table, lui donna des fêtes et lui procura toutes sortes de divertissements pendant 3 jours. Au bout de ce temps, il le fit venir en sa présence pour apprendre le sujet de son ambassade. Abou Teman se présenta à l'audience du roi du Turkestan avec toutes les marques du plus profond respect, lui remit la lettre du roi Ilan-Cha et lui offrit les présents dont il était chargé. Le monarque du Turkestan ayant lu la lettre, dit à l'ambassadeur de se rendre à l'appartement de la princesse afin de la voir et de s'entretenir avec elle. Abou Teman, surpris de ce discours, pensa sur-le-champ qu'on voulait mettre à l'épreuve sa discrétion, sa délicatesse et son respect pour la fille d'un grand monarque. Il se rappela ce que disent les sages. Celui qui sait réprimer ses regards, garder sa langue et retenir ses mains, est à l'abri de tout danger. Il résolut de se conduire d'une manière qui non seulement ne l'exposât à aucun reproche, mais qui put même flatter l'orgueil du souverain. La princesse, prévenue de la visite de l'ambassadeur, l'attendait dans le plus magnifique habillement. Elle était assise sur un trône éclatant et couverte de bijoux d'or, de perles et de pierreries. Abou Teman, ayant été introduit, se prosterna loin du trône et se releva ensuite en tenant les yeux baissés et les mains croisées sur sa poitrine. La princesse lui dit de lever la tête et de lui parler, mais il n'en fit rien. Elle lui répéta une seconde fois la même chose, ajoutant qu'on ne l'avait envoyée auprès d'elle que pour la voir et lui parler librement. Abou Teman ne répondit pas davantage. « Prenez, lui dit la princesse, ces vases d'or et d'argent, ces curiosités qui sont à côté de vous. Ils sont destinés pour vous, je vous en fais présent. » Abou Teman ne fit pas le moindre mouvement. La princesse, alors outrée de dépit, s'écria qu'on lui avait envoyé un ambassadeur aveugle, sourd et muet. Elle donna ordre qu'on le fît retirer et envoya témoigner son mécontentement au roi son père. Le roi du Turkestan fit venir aussitôt Abou Teman et lui dit « Vous venez de voir ma fille. Comment la trouvez-vous ? » « Prince, répondit Abou Teman, je n'ai pas osé lever les yeux sur la fille d'un aussi grand monarque. Vous lui avez sans doute, reprit le roi, demandé sa main pour le roi votre maître. » « Prince, répondit Abou Teman, je me serais bien gardé de faire cette demande à votre fille. Je ne me suis pas permis de lui dire un mot. « Vous avez au moins, ajouta le roi, pris les vases d'or et d'argent que je vous destinais. »« Je n'ai rien reçu, répondit Abou Teman. » Le roi, satisfait de la réserve et de la circonspection d'Abou Teman, se fit apporter une robe d'honneur et l'en revêtit. Il le mena ensuite hors de la salle, lui montra un puits et lui dit de regarder dedans. Abou Teman s'avança et vit que le puits était rempli de têtes d'hommes. « Ce sont, lui dit le roi, les têtes de ceux qui m'ont été envoyés avant vous pour me demander ma fille. Elles sont au nombre de 99. La vôtre fait la centième si vous vous étiez conduit avec moins de délicatesse. Les autres envoyés ont manqué du respect qu'ils devaient non seulement à moi et à ma fille, mais à leur maître. J'ai jugé par leur caractère de celui de leur souverain. Un envoyé est la langue de celui qui l'envoie, et sa politesse annonce celle de son maître. N'ayant donc conçu qu'une mauvaise idée de tous ces rois, je n'ai pas voulu les prendre pour gendre, et j'ai puni, comme je le devais, la témérité et l'imprudence de leurs indignes émissaires. Pour vous, vous avez su vous concilier mon estime, et vous avez mérité d'obtenir ma fille. Je la donne au roi votre maître, en considération de votre sagesse et de votre prudence. » Le roi fit remettre à Abou Teman de grands présents pour Ilan-Cha. Il le chargea d'une lettre par laquelle il accordait au prince la main de sa fille et le félicitait sur le choix qu'il avait fait de son ambassadeur. Ilan-Cha fut au comble de la joie en voyant arriver la princesse du Turkestan. Sa beauté surpassait l'idée qu'il s'en était formée. Et les qualités de l'esprit, la grâce, la douceur qu'elle unissait à ses attraits en faisaient une personne accomplie. Ilan-Cha sentit tout le prix d'un si rare trésor. Persuadé qu'il devait son bonheur à Abou Teman, il lui témoigna sa satisfaction dans les termes les plus flatteurs. Les éloges contenus dans la lettre du roi son beau-père augmentèrent encore l'estime et l'attachement qu'il avait pour lui. Les vizirs, plus jaloux que jamais et piqués de voir que ce qu'ils avaient imaginé pour se débarrasser d'Abou Teman n'avait fait qu'augmenter sa faveur et la confiance que le roi avait en lui, cherchèrent un autre moyen de le faire périr. Le roi avait deux jeunes pages qu'il aimait beaucoup et qui ne s'éloignaient presque jamais de sa personne. Il couchait la nuit près de lui et se tenait à ses côtés quand il prenait l'après-midi quelque repos. Les vizirs, les ayant un jour trouvés seuls, les tirèrent à l'écart et leur proposèrent de leur donner à chacun une bourse de 1000 sequins s'ils voulaient leur rendre un service. Ces enfants ayant demandé avec empressement quel était ce service, un des vizirs leur dit « Abou Théman nous a fait perdre la confiance du roi. Nous voudrions l'éloigner de la cour. Quand vous serez seul avec le roi dans sa chambre et que vous le verrez s'appuyer pour dormir, l'un de vous dira à l'autre « Il faut qu'Abou Théman soit bien méchant pour traiter ainsi le roi qui l'a comblé de biens et de faveurs. « Quelle est donc sa méchanceté ?» dira l'autre. « Il attaque l'honneur du roi, » dira le premier. « Il prétend que le roi du Turkestan faisait mourir tous ceux qui venaient lui demander sa fille, qui n'a été épargnée que parce qu'il a eu le bonheur de plaire à la princesse et qu'elle n'est venue ici que pour l'amour de lui et non par amour pour le roi. « Es-tu sûr de cela ?» dira le second. « Si j'en suis sûr, » dira le premier, « tout le monde le sait. Mais on ose en parler au roi. Toutes les fois que le roi est à la chasse ou au voyage, Abou Théman va trouver la reine et reste seule avec elle. » Les deux petits pages ne demandèrent pas mieux que de dire ce que voulaient les vizirs. On leur fit répéter plusieurs fois leur petite conversation et on leur recommanda de profiter du premier moment où ils seraient seuls avec le roi. L'après-midi, le roi s'étant retiré dans sa chambre et jeté sur son sofa pour se reposer, les enfants s'approchèrent de lui et entamèrent leur dialogue. Le commencement piqua la curiosité du roi qui ne garde de les interrompre et fit semblant de dormir. Le dialogue fini, le roi réfléchit sur ce qu'il venait d'entendre. La jeunesse des enfants, leur innocence, ne permettait pas de soupçonner leur bonne foi. Ils ne pouvaient être d'intelligence avec personne, et ils ne répétaient que ce qu'ils avaient entendu par hasard. Ces réflexions persuadèrent au roi que son favori était coupable et enflammèrent sa colère. Il se leva du sofa, feignant de se réveiller, et ordonna qu'on allât chercher sur le champ Abou Théman. « Comment, lui dit-il dès qu'il l'aperçut, faut-il traiter celui qui ne respecte pas la femme d'un autre ?»« Il mérite, répondit Abou Théman, qu'on ne respecte pas la sienne. »« Mais, reprit le roi, celui qui entre dans le palais de son souverain et attend à son honneur dans la personne de son épouse, quelle doit être sa punition ?»« La mort, répondit Abou Théman. »« Traître, s'écria le roi, tu viens de prononcer ton arrêt !» À l'instant, il tira son poignard, le plongea dans le cœur d'Abou Théman, et l'étendit mort à ses pieds. On enleva son corps et on le jeta dans un puits destiné à cet usage. L'amour du roi pour son épouse l'empêcha de lui parler de l'intelligence qu'il croyait avoir découverte entre elle et Abou Théman. Mais il en conçut un violent chagrin. Elle ne tarda pas à s'apercevoir de sa tristesse et, lui en demandant souvent la cause, jamais il ne voulut la lui découvrir. Il était pareillement affligé d'avoir perdu son premier vizir et ne pouvait s'empêcher de regretter un homme qui lui avait rendu de si grands services et pour qui il avait eu tant d'attachement et de confiance. Un jour, en entrant dans sa chambre, il entendit ses pages parler, faire du bruit dans un cabinet voisin. Il s'approche doucement et prête l'oreille. « À quoi nous sert cet or ?» disait l'un. « Nous ne pouvons le dépenser, ni rien acheter avec. »« Il m'est odieux !» disait l'autre. Il nous a fait commettre une mauvaise action, car nous sommes cause de la mort d'Abou Théman. Si j'avais su que le roi a dû le faire périr ainsi, je n'aurais pas dit du mal de lui. Mais c'est la faute de ces méchants vizirs qui nous ont fait dire ce qu'ils ont voulu. » Le roi, ayant entendu ces discours, ouvrit la porte du cabinet et trouva les pages qui jouaient avec les pièces d'or. « Malheureux, leur dit-il, qu'avez-vous fait? Et d'où vous vient tous ces torts ?» Les enfants effrayés se jetèrent à genoux et demandèrent grâce. « Je vous ferai grâce, leur dit le roi, si vous me dites la vérité, mais elle seule peut vous sauver des effets de ma colère. » Ses enfants racontèrent avec naïveté tout ce qui s'était passé entre eux et les vizirs. Ilancha se repentit alors d'avoir cru si facilement son favori coupable et de l'avoir immolé avec tant de précipitation. Et dans un premier mouvement de colère, il déchira ses habits, se meurtrit le visage, s'arracha la barbe et s'abandonna au plus violent désespoir. « Hélas ! S'écria-t-il, j'ai immolé mon meilleur ami. Abou Théman voulait se tenir éloigné de ma cour. Je l'engageais à s'attacher à moi, en l'assurant que jamais je ne prêterais l'oreille à la calomnie, qu'il n'avait rien à craindre auprès de moi, et c'est moi-même qui l'ai frappé. Cruelle destinée. Je ne puis plus maintenant que venger sa mémoire et faire justice de ses ennemis. » Ilan Shah manda aussitôt les trois vizirs, leur reprocha leur scélératesse et leur fit couper la tête en sa présence. Il se rendit ensuite chez son épouse, lui avoua qu'il avait été d'abord trompé et lui raconta la manière dont il avait reconnu son innocence et celle d'Abou Temen. La reine fit alors éclater le chagrin que lui avait causé la fin malheureuse du premier vizir. Les deux époux pleurèrent ensemble la mort de celui qui était la cause de leur union. Ils donnèrent ordre qu'on retirât son corps du puits dans lequel il avait été jeté, célébrèrent publiquement ses funérailles et lui firent bâtir au milieu du palais un tombeau sur lequel ils allaient souvent répandre des larmes. « C'est ainsi, ô roi, continua le jeune homme, qu'Abou Temen fut victime de l'envie et que ses ennemis portèrent ensuite la peine de leur crime. J'espère que Dieu me fera pareillement triompher des envieux que me suscite la faveur dont vous m'avez honoré, et qui vous fera connaître mon innocence. Je ne crains pas de perdre la vie, mais je crains qu'un repentir inutile ne s'élève dans le cœur du roi et ne le tourmente. L'acharnement de vos vizirs contre moi, le désir qu'ils montraient tout à l'heure de verser eux-mêmes mon sang, laissait lasser la passion qui les anime. Mon assurance et ma tranquillité, au contraire, vous montrent mon innocence. Si j'étais coupable, les reproches de ma conscience enchaîneraient ma langue et troubleraient mon esprit. » À cette part, vivement touché de ce qu'il venait d'entendre, oublia les conseils de ses vizirs et ne put se résoudre à faire périr encore le jeune ministre. « Qu'on le reconduise en prison, dit-il au soldat. Demain, j'examinerai de nouveau cette affaire et rien désormais ne pourra le soustraire à la mort. » Les vizirs, s'étant assemblés le lendemain, se disaient les uns aux autres. « Ce jeune homme rend inutile tous nos efforts pour le perdre. En vain nous allumons contre lui la colère du roi. Il vient toujours à bout de l'apaiser par la magie de ses discours. Cherchons encore un nouveau moyen de hâter son supplice. Car tant qu'il respire, nous ne serons pas en sûreté et nous ne pourrons goûter aucun repos. » Les vizirs, après avoir longtemps délibéré, convinrent d'engager la reine à demander elle-même la punition du jeune homme. Ils allèrent la trouver et l'un d'eux lui dit « Vous ignorez, madame, ce qui se passe autour de vous et l'injure qu'on fait à votre réputation. Malgré votre rang, votre puissance, l'éclat et la grandeur qui vous entourent, la calomnie s'attache à votre personne et vous êtes l'objet de la satire publique. Des femmes parcourent les rues en jouant du tambourin et mêlent votre nom dans leurs chansons. On dit que vous aimez le jeune ministre et que vous empêchez le roi de le punir. » « Ces discours m'offensent vivement, dit la reine, et je veux les faire cesser. Je suis intéressée, je le vois, à hâter la mort de ce jeune homme. Mais que faut-il faire pour cela ?»« Madame, lui dit l'un des vizirs, il faut aller trouver le roi, vous jeter à ses pieds, lui dire que vous avez appris par vos femmes les bruits qui se répandent dans la ville et que vous ne pouvez vivre plus longtemps si ce jeune homme n'est exécuté sur le champ. » La reine, entraînée par cet artifice, se leva aussitôt et se rendit chez le roi. Elle déchira ses habits devant lui, se jeta à ses pieds et lui dit en pleurant « Mon honneur n'est-il pas inséparable du vôtre? Et peut-on attaquer ma réputation sans manquer au respect qui vous est dû? Le crime de ce jeune homme est connu de toute la ville. Votre indulgence pour lui donne lieu à des bruits injurieux que je ne puis supporter plus longtemps. Ordonnez sa mort ou faites-moi périr moi-même. » Le discours de la reine produisit l'effet qu'en attendaient les vizirs. Le roi lui témoigna qu'il partageait son ressentiment, que ces bruits l'outrageaient autant qu'elle, et qu'il allait les faire cesser à l'instant. La reine, s'étant retirée, on fit entrer le jeune homme. « Malheureux !» s'écrièrent les vizirs en le voyant. « Tu voudrais en vain prolonger maintenant tes jours. Ton heure est enfin venue, et la terre elle-même a soif de ton sang. » « Votre discours, répondit le jeune homme, et votre rage jalouse ne peuvent hâter ma mort. L'instant en est irrévocablement fixé par la Providence. Rien ne saurait ni l'avancer ni le reculer. Ce qui est écrit par le doigt de Dieu ne peut manquer d'arriver, et tous nos efforts, toutes nos précautions ne peuvent nous en garantir. L'histoire du roi Ibrahim et de son fils en est une preuve évidente. » Azad Bart voulut encore entendre cette histoire, et le jeune homme la raconta en ces termes.